Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
En 1985, dans le cadre des nouvelles policières, Francis Lacassin proposait une nouvelle de Jack London, parue pour la première fois dans The Saturday Evening en 1910. Elle a pour titre « To kill a man, tuer un homme ». Une jeune femme de la haute société de la côte est des États-Unis surprend chez elle, une nuit, un cambrioleur qui la menace d'un revolver. L'homme, qui vient de l'ouest, dit être là pour se faire justice et reprendre son dû. On entend ici « To kill a man » dans une traduction de Louis Postif et par la voix de Robert Parti.
Les nouvelles du crime. Texte choisi et présenté par Francis Lacassin.
Pendant sa courte vie, de 1874 à 1916, Jack London a exercé les métiers les plus divers et parfois les moins communs. Il a été marin, chasseur de phoques dans le détroit de Bering, boxeur, balayeur, vigile, ouvrier dans une fabrique de conserve, chauffeur dans une centrale électrique thermique, repasseur dans une teinturerie. Il a été aussi vagabond du rail aux États-Unis et au Canada, avant d'être incarcéré pour vagabondage. On aurait pu aussi bien l'incarcérer pour le pillage des huîtres dans la baie de San Francisco, auquel il s'est livré pendant plusieurs années. Il est vrai que, très vite, il est devenu un des policiers chargés de réprimer le pillage des huîtres. Il venait de solliciter un emploi de facteur des postes quand est parvenu à San Francisco, sa ville natale, la nouvelle qu'on venait de trouver de l'or au Klondike, c'est-à-dire dans une région glacée située au nord-ouest du Canada et de l'Alaska. C'était au printemps 1898. Il est parti, naturellement. Il a été l'un des 100 000 hommes qui ont escaladé les montagnes du Chilkoot pour aller vers la Terre promise. Et il y est resté un an. Un an au bout duquel il est revenu avec une poudre d'or évaluée à 4,50 $. Mais il ramenait un trésor bien plus grand et c'était, comme on dit, l'inspiration. Il est surtout connu aujourd'hui comme le romancier des neiges, des Indiens, des chercheurs d'or, des chiens. Tout le monde a lu ces deux romans magnifiques que sont Cro-Blanc et L'appel de la forêt. Et pourtant, il n'est pas seulement le romancier de l'action, de l'aventure et du voyage. Dans ses romans des neiges et de chercheurs d'or, comme dans ses romans sociaux où il met en scène la jungle des villes, se révèle toujours le roman de l'énergie et de la lutte. Il est celui qui croit que la vie ne doit pas être acceptée telle qu'elle est et qu'on peut la changer. Et cette ferveur, il l'a fait partager à tous ses personnages et aussi, souvent, à ses lecteurs. Cette foi militante, elle apparaît en filigrane également dans quelques romans d'anticipation qu'il a écrits et dans ses deux ou trois nouvelles policières. Au fond, c'est la lutte des classes, réduite à un affrontement verbal mais néanmoins très dur, c'est la lutte des classes et qui sous-tend l'intrigue simple mais originale de tuer un homme.
Bien que les lampes fussent en veilleuse, elle parcourait d'un œil familier ses immenses chambres et ses larges vestibules, cherchant vainement de pièce en pièce le volume de verre à demi terminé qu'elle avait égaré et dont elle venait de se souvenir. Elle tourna le commutateur du salon et la lumière électrique révéla une jeune femme en négligé rose tendre, la gorge et les épaules noyées dans un flot de dentelle. Elle n'avait pas retiré ses bagues et sa chevelure roulait en boule d'or sur sa nuque. D'une beauté fine et délicate avec un visage ovale, des lèvres pourpres et des joues légèrement rosées, elle avait des yeux changeants comme ceux d'un caméléon, des yeux capables de prendre à volonté un air d'innocence virginale ou des reflets tantôt durs, gris et froids, tantôt flamboyants et dominateurs. Ayant éteint la lumière, elle sortit de la pièce et traversa l'antichambre et se dirigea vers la salle où, chaque matin, se réunissait la famille. Elle s'arrêta sur le seuil et prêta l'oreille. De l'autre côté lui parvenait non un bruit, mais une impression de mouvement. La porte de la salle à manger était fermée. Elle ouvrit et entra. Elle chercha à tâtons le bouton du commutateur et l'abaissa. La lumière jaillit. Elle fit un pas en arrière et poussa un cri, un simple « Oh !» À quelques pas, aplatie contre le mur, elle vit un homme braquant sur elle un revolver. Malgré le choc de la surprise, elle remarqua l'intrus, un individu de taille moyenne, grossièrement vêtu. Il avait l'œil brun et la peau bronzée par le soleil, semblait très maître de lui. Le revolver ne tremblait pas, il demeurait pointé vers elle, en plein milieu du corps. Au lieu de la viser à bras tendus, l'homme reposait son avant-bras sur sa hanche. « Oh, » fit-elle, « excusez-moi, vous m'avez causé une telle frayeur, que voulez-vous ?»« Sortir, » répondit-il, un pli sarcastique aux lèvres. « J'ai, comme qui dirait, perdu mon chemin dans ce sacré labyrinthe, et si vous voulez bien me montrer la porte, je ne demande qu'à déguerpir sans tambour ni trompette. » « Mais que faites-vous ici ?» demanda-t-elle d'un ton sec, en personne habituée à commander. « J'étais venu pour cambrioler, miss. Voilà la vérité. Je furetais par-ci, par-là, pour voir ce que je pourrais ramasser. Je vous croyais absente, car je vous ai vu sortir en auto avec un vieux, votre papa sans doute. Je suppose que vous êtes miss Sutcliffe. » Madame Sutcliffe, percevant l'erreur, apprécia le naïf compliment et résolut de ne pas détromper le voleur. La fine Madame Sutcliffe comprit qu'elle avait peu à redouter d'un tel homme. Ce n'était pas un criminel endurci, elle en avait la certitude, ni un citadin. Sa façon de parler évoquait un air plus pur et plus calme que celui des villes, l'air des grands espaces. Elle le sentait, et cela piquait sa curiosité. « Supposez que je crie, que j'appelle au secours. Vous ne tireriez pas sur moi, une femme. » Elle remarqua de l'embarras dans l'œil brun de l'homme. Il répondit lentement et en cherchant ses mots comme s'il réfléchissait à la solution d'un problème difficile. « Bah, en ce cas, force me serait de vous clore le bec et de vous malmener un brin. »« Quoi, une femme ? Ah bah, pas d'autre moyen, » répondit-il, un pli dur au coin des lèvres. « Vous n'êtes qu'une faible femme, j'en conviens, miss, mais je peux pourtant pas risquer la prison à cause de vous. »« Ah non, miss, n'y comptez pas, un de mes amis m'attend là-bas, dans l'ouest. »« Il est dans de fichu drap et j'ai promis de l'en tirer. » Le pli dur s'accentua. « Je suis pas un cambrioleur, miss, pas un vrai, du moins, » s'empressa-t-il d'ajouter en voyant l'air sceptique ironiquement peint sur le visage de son interlocutrice. « On me croirait pas, bien sûr, à me voir dans votre maison, mais c'est la première fois que je tâte de ce métier-là. J'avais besoin d'argent, il m'en fallait à tout prix, et puis je considère mon acte comme une espèce de reprise individuelle. » Il fit un mouvement vers la porte de la salle à manger, mais la jeune femme lui barra le passage, interposant sa propre personne, qui était, ma foi, un charmant obstacle. La main de l'homme se leva comme pour l'empoigner, puis marqua une hésitation. De toute évidence, le charme féminin opérait sur lui. « Là !» s'exclama-t-elle triomphalement. « Je savais bien que vous n'oseriez pas. » La gêne de l'homme était de plus en plus visible. « J'ai jamais porté la main sur une femme, » fit-il en guise d'explication. « Voulez-vous rester encore quelques minutes ?» dit-elle aimablement. « J'aimerais que vous m'expliquiez ce que vous entendez par cambrioler pour exercer une reprise individuelle. » Elle eut un rire plein de gaieté. « Il y a voleur et voleur, n'est-ce pas ? J'ai pas peur de vous parce que je suis convaincu que vous ne feriez pas de mal à une femme. Eh bien, bavardons un peu. Personne ne nous dérangera. Je suis toute seule. Mon père a pris le train du soir pour New York. Les domestiques dorment tous. Je voudrais bien vous offrir une collation. Les femmes, vous ne l'ignorez pas, préparent toujours des soupers de minuit à l'intention des cambrioleurs éventuels. » Du moins, cela se passe ainsi dans les romans, dans les magazines. Mais je sais où trouver des aliments. Désirez-vous boire quelque chose ? Il hésitait, interdit. Mais elle lisait dans ses yeux une admiration croissante. « Ah, vous êtes une vraie boîte à surprises, ma parole !» s'exclama-t-il, abaissant pour la première fois son arme. « Qu'on ne me dise pas, après, que les femmes de la ville sont des froussardes. Vous ne l'êtes guère, vous. Un petit bout de femme, vous avez du cran, il n'y a pas d'erreur. Et sans méfiance par-dessus le marché. » Je connais pas beaucoup de femmes, ni même d'hommes, qui afficheraient autant de crâneries devant un type tenant un revolver au poing. » Elle sourit, flattée du compliment, et la sincérité se reflétait sur son visage lorsqu'elle ajouta « Votre mine m'inspire confiance. Vous paraissez trop honnête pour un voleur. Allons, débarrassez-vous de ce revolver et examinons ensemble la situation. Ce qu'il vous faut, c'est un emploi. Oh, « J'en trouverai pas par ici, » fit-il amèrement. « Je me suis usé les guiboles à solliciter de l'ouvrage. Ah, » Si vous aviez vu quel gaillard j'étais avant de courir après du boulot. » Le rire gai dont elle salua ces paroles fit visiblement plaisir à l'homme. Profitant de cet avantage, elle s'écarta de la porte et marcha droit au buffet. « Venez, venez, contez-moi tout cela pendant que vous boirez un rafraîchissement. Que voulez-vous? Du whisky ?»« Oui, miss, » dit-il en la suivant, mais sans lâcher son revolver et tout en jetant à la dérobée des regards méfiants sur la porte restée grande ouverte. Elle emplit un verre et le lui tendit. Elle leva son verre à la hauteur du sien, une lueur sympathique dans les yeux. « À votre santé, puisqu'avez-vous trouvé un bon emploi. » Cependant, Madame Sutcliffe ne tenait pas à laisser échapper son cambrioleur. Elle était trop femme de tête pour tomber dans le romanesque, mais la situation actuelle présentait un piquant d'aventure qui la ravissait. D'autre part, elle savait ne courir aucun danger. L'homme, malgré sa forte mâchoire et son air d'assurance, se montrait tout à fait docile et maniable. Et en son esprit surgissait la pensée d'un auditoire d'amis admiratifs. Quel dommage qu'il ne puisse la voir en ce moment. « Vous ne m'avez toujours pas expliqué, reprit-elle, comment dans votre cas, cambrioler signifie purement et simplement faire de la reprise individuelle. Venez vous asseoir à cette table et contez-moi cela. » Elle s'arrangea de façon à gagner sa place habituelle et le fit asseoir en face d'elle. Toujours sur ses gardes, l'homme promenait autour de lui un œil furtif qui se ramenait avec une pointe d'admiration sur ceux de la jeune femme, mais sans s'y attarder longuement. Il pénétrait dans un nouveau milieu, inconnu de lui, cet homme du Far West, rompu au mystère de la forêt, aux ruses de l'embuscade, l'oreille et l'œil sans cesse alertés, ignorait que sous la table, contre le pied de son interlocutrice, se trouvait le bouton d'appel d'une sonnerie électrique. Jamais il n'eût soupçonné l'existence d'un dispositif aussi ingénieux. Aussi, de ce côté, toute sa ruse et sa vigilance ne lui servaient de rien.
« Voilà la vérité, miss. Je suis qu'un des milliers de pauvres bougres dupés par votre papa, voilà tout. Je possédais une petite mine que j'exploitais avec une méchante machine hydraulique d'un cheval vapeur, quand la bande Sutcliffe bouleversa l'Idaho et réorganisa le trust des fonderies. Lorsqu'elle mit le grappin sur toute la région et établit sa vaste installation hydraulique, au pain jumeau, je fus balayé du premier coup et perdis tout mon argent. Et voilà pourquoi, ce soir, à bout de ressources et ayant un ami dans le besoin, j'ai fait un tour par ici pour reprendre ce qui me revient de droit. Supposez que toute cette histoire soit exacte. Rien ne justifie le cambriolage, et vous ne pourriez pas invoquer cette excuse devant un tribunal. Je le sais bien, fit-il humblement, ce qui est juste n'est pas toujours légal. Pas plus tard que la semaine dernière, un jeune type a ramassé 50 ans de prison pour attaque à main armée dans la rue d'un citoyen qui ne portait sur lui que 2,85 $. Quand les temps sont durs et que le travail manque, les gens deviennent désespérés. Alors ceux dont les richesses tentent, les pauvres, prennent peur et ne ménagent pas les délinquants. Si je suis pincé, il y a des chances que j'attrape 10 ans. Voilà pourquoi je demande à m'en aller. Elle l'arrêta d'un geste et retira en même temps son pied de dessus le bouton d'appel qu'elle avait pressé par intermittence. « Vous ne m'avez pas encore dit votre nom. » Il hésita. « Appelez-moi Dave. »« Eh bien, Dave, » fit-elle avec un petit rire aimable, « je veux faire quelque chose pour vous. Si vous commencez par prendre ce que vous estimez être votre dû, plus tard, vous vous approprierez ce que vous saurez fort bien ne pas vous appartenir. » Et vous n'ignorez certainement pas où conduit cette aventure. Nous allons, au lieu de cela, vous trouver un honnête emploi. Oui, oui, c'est cela même. Je vous prêterai de l'argent pour votre ami et vous me le rembourserez petit à petit sur votre salaire. 300 $ suffiraient, dit-il lentement. 300, ça le sauverait. Je m'userai s'il le faut les mains au travail pendant un an. Pour moi, je ne demande que mon entretien et quelques sous pour m'acheter des cigarettes.
Voulez-vous fumer, lui demanda-t-elle.
J'en meurs d'envie. Mais alors ne vous gênez pas, j'aime l'odeur du tabac, du tabac de cigarette, j'entends.
L'homme plongea sa main gauche dans la poche de sa veste, en tira quelques feuilles de papier à cigarette, en transféra une à sa main droite, près du revolver, puis, replongeant dans sa poche, il ramena une pincée de gros tabac brun qu'il déposa sur la feuille, et les deux mains au-dessus de son arme, il se mit à rouler une cigarette. « À la façon dont vous couvez de l'œil ce revolver, on dirait que vous avez peur de moi, » lui lança-t-elle ironiquement.
« Pas exactement, miss, mais étant donné les circonstances, je me sens un peu timide. » Pourtant, j'ai pas eu peur de vous, moi.
Ah ben, vous n'avez rien à craindre.
Si, ma vie, riposta-t-elle.
C'est vrai, se hâta-t-il d'admettre. Et malgré tout, vous n'avez pas eu la frousse.
Vous savez juger les hommes et les femmes, je vois cela. Il n'est pas possible qu'au moment où j'essaie de vous détourner d'une existence criminelle et vous offre un travail honnête... Tout contrit, il l'interrompit.
Je vous demande pardon, miss. Ma méfiance n'est guère aimable, en effet.
Là-dessus, après avoir allumé sa cigarette, il éloigna sa main de la table et la laissa retomber à son côté.
À propos de ces 300 dollars, reprit-il, je pourrais les envoyer là-bas par mandat télégraphique et je m'engagerai à travailler pendant un an pour le remboursement et mon entretien.
Vous gagnerez davantage, je vous promets au moins 75 dollars par mois. Est-ce que vous vous y entendez en chevaux?
Les traits de l'homme s'éclairèrent et son regard s'alluma. Il fit un signe affirmatif. « Ah oui, nous avons une ferme d'élevage où nous pourrions employer un homme comme vous.
Et cela vous plairait-il ?»«
Si ça me plairait, miss, à qui le dites-vous ?»
Sa voix vibrait de gratitude et d'enthousiasme.
« Envoyez-moi à votre ferme et je m'y déniche de la besogne dès demain. Je vous fais cette promesse, miss. Jamais vous ne regretterez d'avoir tendu la main à Hugues et Lugues quand il se trouvait dans l'embarras. »
« Mais ne m'avez-vous pas dit que vous vous appeliez Dave ? » fit-elle d'un ton de reproche.
« C'est vrai, miss, c'est vrai. Oui, je vous en demande pardon, c'était une blague. Hugues et Lugues est mon vrai nom. Et si vous voulez me donner l'adresse de votre ferme et le prix du billet, je prends demain matin le premier train. »«
À la bonne heure, je suis heureuse que vous acceptiez, » dit-elle. « Nous nous entendrons ensuite sur les conditions. »« Attendez-moi, tout d'abord. Je monte là-haut chercher ma bourse. » Mais... Avant qu'elle reçût son acquiescement, un léger grincement lui parvint à l'oreille. Cette vibration à peine perceptible, qu'elle n'eût pas entendue si elle n'avait pas tendu l'oreille dans cette direction, provenait, elle le savait, de la porte battante de l'office.
« Qu'est-ce que c'est que ça ? » demanda-t-il.
En guise de réponse, la jeune femme allongea la main gauche sur le revolver et le ramena vers elle. Son geste avait surpris l'homme, car presque au même instant, la main de celui-ci s'abattit sur la table et se referma dans le vide, à l'endroit d'où venait de disparaître le revolver.
« Asseyez-vous, » ordonna-t-elle d'un ton sec, qu'il ne lui reconnaissait pas.
Il lui avait donné une leçon dont elle profitait. Au lieu de le viser à bras tendus, elle avait posé son avant-bras sur la table, le revolver braqué non sur la tête mais sur la poitrine de l'homme. Celui-ci, qui la regardait froidement tout en obéissant à ses ordres, comprit qu'il n'y avait aucun salut pour lui, à moins que le recul de la détente ne fît manquer le coup si elle tirait. Il vit aussi que ni le revolver, ni la main qui le tenait ne tremblaient, et il n'ignorait pas le genre de blessure que laisseraient ses balles à pointe molle. Il ne quittait pas des yeux le chien qui s'était levé contre la gâchette, sous la pression de l'index de la femme. Il entendit une porte s'ouvrir derrière lui et quelqu'un pénétrer dans la pièce, mais il ne tourna pas la tête. Il ne détachait pas le regard de celle qui lui faisait face. C'était une autre femme, d'une beauté toujours éblouissante, mais froide, impitoyable. Les yeux comme le visage étaient durs et reflétaient une lueur glaciale.
« Thomas, » ordonna-t-elle à son domestique, « téléphonez à la police. Pourquoi avez-vous mis tant de temps à répondre ?»«
Je suis descendu dès que j'ai entendu la sonnette, madame. » Demeurés seuls, l'homme et la femme, toujours assis, ne se regardèrent dans le blanc des yeux. Pour elle, c'était une aventure dont elle savourait par anticipation tout le plaisir qu'elle en tirerait. Elle se représentait déjà le bruit que cette affaire provoquerait dans son cercle d'amis et les articles de la presse mondaine décrivant tout au long comment la belle Madame Setlife avait seule arrêté et livré à la police un voleur armé.
Quand vous serez sous les verrous, dit-elle posément, vous aurez tout le loisir de méditer sur la folie de voler le bien d'autrui et de menacer une femme d'un revolver.
L'homme ne répondit rien. Quoique son regard fût toujours rivé sur elle, il la considérait maintenant d'un œil vide. Un voile l'interceptait à ses yeux. Il entrevoyait tout là-bas les vastes espaces ensoleillés du Far West, les immenses solitudes dont les habitants, hommes et femmes, étaient plus nobles que ces fantoches des maudites, trois fois maudites villes de l'Est.
« Eh bien, vous êtes muet à présent ? Vous ne me demandez plus de vous lâcher ?»«
Je pourrais, » répondit-il en passant sa langue sur ses lèvres sèches. « Je pourrais implorer ma liberté si... »«
Si quoi ? » interrompit-elle d'un ton péremptoire.
« Je cherchais un mot et vous venez de me le rappeler. Comme je le disais, je réclamerais volontiers ma liberté si j'avais affaire à une femme ayant le moindre sens moral. Elle avait pâli. « Prenez garde à vos paroles, s'écria-t-elle d'un ton menaçant. « Bah, vous n'oserez pas me tuer. Il faut que le monde soit bien bas pour laisser une créature comme vous s'y pavaner à son aise. Mais il n'est pas encore assez vil pour vous permettre impunément de me trouver la peau. Vous êtes une mauvaise femme, mais trop lâche dans votre perversité même. Tuer un homme, c'est pas grand-chose, mais vous n'en avez pas le cran. « Prenez garde à vos paroles, répéta-t-elle. » Il feignit de ne pas avoir entendu et poursuivit. « Je me demande ce que fabrique la Providence là-haut. À quoi pensait-elle en vous lâchant ainsi dans mes jambes? Pourquoi ça me dépasse? Pourquoi joue-t-elle d'aussi sale tour à la pauvre humanité? À la place du bon Dieu, moi... Je... » L'apparition du maître d'hôtel interrompit cette harangue. « Le téléphone doit être détraqué, madame, annonçait-il, car je ne peux pas obtenir le central. Appelez un des domestiques, lui ordonna-t-elle. Envoyez-le chercher un agent et revenez aussitôt ici. » L'homme et la femme se retrouvèrent en tête à tête. « Mais permettez-vous une question, madame, » dit l'homme. « Ce larbin a parlé d'une sonnette, mais je vous épie comme un chat et je suis sûr que vous n'avez pas sonné. La sonnette est sous la table, pauvre niais. J'ai appuyé dessus avec mon pied. »« Ah, merci, madame. À présent, je sais à quoi m'en tenir sur les gens de votre espèce. Je vous parlais franc et me fiais entièrement à vous. Pendant ce temps, vous me mentiez d'une façon éhontée. » Vous feigniez d'apparaître à mes yeux l'image même de la bonté alors que votre pied ne cessait de presser le bouton électrique sous la table. Eh ben, je vous le dis franchement, et ce sera ma consolation. J'aime mieux être le pauvre Hugues et Lugues et faire 10 ans de prison que d'être dans votre peau. Madame, l'enfer regorge de femmes comme vous. Il y eut un moment de silence. Continuez, insista-t-elle. Je vous écoute. Parlez. Eh bien, madame, il me reste quelques mots à vous dire. Savez-vous ce que je vais faire? Je vais me lever et sortir par cette porte. Je vous arracherai bien cette arme des mains, mais vous pourriez vous affoler et faire partir la détente. Gardez donc mon revolver, il est excellent. Comme je viens de le dire, je vais sortir tout droit par cette porte et vous ne tirerez pas. Faut du cran pour tuer un homme, et ce cran-là vous manque. Allons, vous êtes prête? Voyons un peu si vous oserez appuyer sur la détente. Les yeux toujours fixés sur elle, il repoussa sa chaise et se mit lentement debout. La femme releva le chien à moitié. « Pressez plus fort !» lui conseilla-t-il. « Il n'est qu'à demi levé. Continuez et tuez-moi. Répandez ma cervelle sur votre parquet et trouez-moi la poitrine. C'est ça, tuer un homme !» L'homme tourna le dos et marcha à pas lents vers la porte. Elle maintint son revolver braqué sur lui. À 2 reprises, le chien se releva à moitié de sa course et s'abaissa comme à regret. Parvenu sur le seuil et au moment de le franchir, l'homme fit demi-tour. D'une voix basse, presque traînante, il articula un mot, rien qu'un mot. Mais une basse injure chargée de toute la quintessence du mépris et du dégoût. Puis, tranquillement, il sortit.
C'était « Tuer un homme » de Jack London, raconté par Robert Party. Réalisation Jacques Béraud.
C'était Nouvelles policières, Tuer un homme de Jack London, présenté par Francis Lacassin. Traduction de Louis Postif, lecture Robert Party. Cette émission a été diffusée la première fois le 5 août 1985 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.